marchant sur la plage du Touquet. Et il m'a dit qu'il ne dira jamais. C'était à Bangolo. La lune brillait très haut dans le ciel, comme notre vieux soleil. La mère et le fils étaient assis côte à côte à même le sol. Tu lui as...
Radio de la paix, il est 7 heures. Le journal de 7 heures, César Yao.
Bonjour à tous, le sommaire de ce mardi 7 heures. Intensification des relations ivoiro-japonaises. La ministre japonaise des Affaires étrangères, reçue hier lundi par le président ivoirien Alassane Ouattara, s'est engagée au nom de son pays à contribuer à la paix et soutenir les efforts de la Côte d'Ivoire dans tous les domaines, notamment celui de la sécurité. Le premier ministre ivoirien, au nom des chefs d'État et de gouvernement pour la reconstitution de l'Association pour le développement international, une institution de la Banque mondiale, eh bien, lors de ce rendez-vous, Robert Beugré Mambé a sollicité pour la Côte d'Ivoire un renforcement du soutien de l'institution. Dans l'actualité internationale, la deuxième retraite du Conseil des sages de la CEDEAO se tient en ce moment même ici à Abidjan. Les défis de la gouvernance, la paix et la sécurité dans la sous-région ouest africaine sont au menu des échanges. Aussi Potin passera en revue les titres des journaux ivoiriens du jour. Et en fin d'édition, Francis Kassi recevra Théodore Nyanya Zadi, président de la Confédération syndicale Plateforme nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, qui s'étonne que sa centrale syndicale soit écartée pour la cérémonie officielle organisée par le Premier ministre. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon est au beau fixe et va s'accentuer dans plusieurs domaines, surtout économiques et sécuritaires. En tout cas, c'est l'essentiel des échanges qu'il y a eu entre le président de la République Alassane Ouattara et la ministre des Affaires étrangères du Japon hier lundi ici même à Abidjan. On en parle avec Junior Cardin.
Les projets déjà réalisés, de même que ceux en cours et à venir, dans le cadre de la coopération bilatérale, ont été évoqués par le président Alassane Ouattara.
La Côte d'Ivoire a reçu de nombreux investissements du gouvernement japonais dans tous les secteurs, le secteur des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture, du social. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise est à 70% terminé et l'inauguration pourra se faire dès l'année prochaine. Et nous pensons qu'il y aura une accélération de la mise en œuvre du montage des véhicules Toyota dans les meilleurs délais.
L'importance des investissements du Japon en Côte d'Ivoire répond à certaines réalités, au dire de Kamikawa Yoko, ministre des Affaires étrangères du Japon.
Le Japon considère votre pays qui maintient chaque année un taux de croissance économique élevé et bénéficie d'un environnement des affaires stable et favorable comme une porte d'entrée pour rayonner vers la Légion francophone de l'Afrique de l'Ouest et continuera à renforcer les relations économique entre nos deux pays.
D'où cet engagement pour un appui sécuritaire et humanitaire du pays du soleil levant à la Côte d'Ivoire.
Pour cette raison, le Japon contribuera à la paix et à la stabilité dans la région en renforçant les capacités de contrôle des frontières, en améliorant les services publics et en soutenant les réfugiés, les familles accueillies dans la perspective de femmes, paix, sécurité. Le Japon continue à soutenir les efforts de la Côte d'Ivoire.
Au dire des deux autorités, la Côte d'Ivoire pourrait abriter un forum économique Afrique-Japon du secteur privé en décembre prochain.
Alors, Junior, bien avant la rencontre avec la ministre des Affaires étrangères du Japon, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a échangé le matin même à sa résidence avec Michael Langley, le commandant du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique. Et là encore, les questions sécuritaires étaient au centre de la rencontre, de même que le retrait des militaires américains du Niger, tel que demandé par les autorités de ce pays. Écoutons le général Michael Langley face à la presse à sa sortie d'audience.
Thank you very much. Let me just state, you know, coming here.
Alors, il faut dire qu'il y a de cela 9 mois, j'étais ici et nous avons eu à parler des questions sécuritaires avec la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, si je suis encore revenu, c'est pour pouvoir renforcer nos relations et aussi permettre de pouvoir avoir plus d'informations ou aider mieux la Côte d'Ivoire à pouvoir résoudre ces questions de sécurité qui règnent dans la sous-région. Et l'une des raisons pour lesquelles encore je suis là, c'est aussi pour féliciter la Côte d'Ivoire pour cette organisation réussie de la Coupe d'Afrique des Nations et pas seulement une belle organisation parce qu'il faut dire qu'il y a eu plus de 2 milliards de téléspectateurs de par le monde entier. Mais encore, ce qui nous réjouit, c'est le fait que la Côte d'Ivoire ait remporté cette Coupe. Mais il faut dire que concernant le retrait de nos troupes, nous avons énormément échangé avec les autorités de ce pays et le verdict sera rendu public dans quelques semaines. Donc, soyez un peu patients. Il faut dire que nous sommes conscients du fait que la menace existe, la menace est bien réelle et nous sommes, on va dire, là pour renforcer nos différents partenariats avec la Côte d'Ivoire en matière de sécurité, de sorte à pouvoir mener à mieux cette mission de pouvoir, on va dire, aider à éliminer tout ce qui est violence extrémiste au niveau de la sous-région.
Voilà, c'était le général Michael Langlais, commandant du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique. Le premier ministre ivoirien représente du 28 au 30 avril à Nairobi au Kenya le président Alassane Ouattara lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement pour la reconstitution de l'Association pour le développement international, une institution de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres de la planète. En prenant la parole, le chef de gouvernement ivoirien a sollicité pour la Côte d'Ivoire un renforcement du soutien de la Banque mondiale à travers cette plateforme. On écoute Robert Begrimambe.
Je voudrais me réjouir d'avoir ici le grand honneur de représenter le chef de l'État à cette rencontre de Nairobi qui va consister à redimensionner le volume de l'intervention de l'IDA. Nous venons de rencontrer le vice-président en charge de l'Afrique de la Banque qui a donné l'occasion d'articuler nos discussions sur plusieurs points qui sont très importants pour la Côte d'Ivoire. L'eau, l'électricité, l'agriculture, la santé, l'éducation et tous les mécanismes par lesquels nous allons consolider les acquis de la Côte d'Ivoire pour que ce pays soit très fort au plan économique et social. Voici un peu l'objet de notre présence à Nairobi.
Voilà Robert Begrimambe, Premier ministre de Côte d'Ivoire, présent également à ce sommet, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, pour sa part, saluer le leadership de la Côte d'Ivoire pour le développement de l'Afrique. Nous l'écoutons.
J'ai rappelé également que l'idée d'une réunion de ce niveau, en fait, vient de Son Excellence Monsieur le Président Ouattara. Au sortir de la pandémie de la COVID-19, il avait convié ses pairs africains et la Banque mondiale à Abidjan pour discuter de la nécessité de tous les partenaires d'accompagner le développement de l'Afrique à travers une mobilisation conséquente de ressources. Ça a été un succès extraordinaire. Donc nous reproduisons la même démarche. Donc la présence de la Côte d'Ivoire à cette rencontre, ça va donner beaucoup de force à la fois à nos efforts, mais également beaucoup de crédibilité à cette démarche.
Voilà à l'instant le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana. Autre chose dans ce journal de mardi, cette promotion des emplois verts. Après la première édition au Cameroun l'année dernière, le Centre national floristique de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Cocody, a abrité récemment la deuxième édition du Salon Pro Écolo de la salubrité des solutions écologiques en Afrique. Cet événement organisé par Valoris Eco-Solutions se tenait autour du thème déchets, dégradation des terres et désertification, agir pour une Afrique durable. On en parle avec Jean-Claude Mabéa qui a assisté jeudi dernier à la cérémonie d'ouverture.
Le commissaire général de cette seconde édition du Salon Pro Écolo de la salubrité et des solutions écologiques en Afrique a expliqué les objectifs et les enjeux de cet événement. Moussa Traoré dit MT.
Notre écosystème est menacé par les ordures et le nombre de bouteilles plastiques dans la lagune. Au sorti de ces 3 jours de réflexion, je suis convaincu que des pistes de solutions seront élaborées.
Venu de Yaoundé, le porte-parole d'une délégation d'experts en environnement a donné les raisons de leur présence à ce salon.
Nola Bina Martin, je suis ingénieur des eaux et forêts. Je représente Pro Écolo Cameroun et nous venons ici proposer des solutions, certaines approches, comment réutiliser des grandes quantités de bouteilles plastiques qui polluent énormément notre environnement pour faire des meubles, des constructions de maisons pour essayer de lutter contre la dégradation des terres.
Les questions environnementales étant au cœur des actions du CESEC, la représentante du président de l'institution, Dr Eba Bomo Catherine, a salué l'initiative, non sans exprimer les attentes de son mandant.
Le message adressé par le président, c'est la prise en compte de tout ce qui concerne les éléments qui contribuent à la préservation de l'environnement, à la lutte contre tout ce qui est changement climatique. Nous attendons des réponses efficaces, parce que ce sont des thématiques qui ne sont pas prise en compte par les populations.
Une marche verte est donc prévue pour marquer la fin de ce salon à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.
Dans l'actualité internationale, le 29 et 30 avril 2024, n'est-ce pas, se tient à Abidjan la deuxième retraite du Conseil des sages de la CEDEAO. Celle-ci porte sur le thème « Capitaliser les expériences et répondre aux défis actuels en matière de gouvernance de paix et de sécurité ». Là-dessus, écoutons Goodluck Jonathan, le président du Conseil des sages de la CEDEAO et ancien président de la République fédérale du Nigeria.
Avec les différents challenges que les gouvernements rencontrent à travers la région, en ce moment y compris le défi que pose la décision du Burkina Faso, du Mali ou encore du Niger de se retirer de la CEDEAO, on assiste à un véritable coup contre la démocratie. 4 pays qui sont actuellement sous un régime militaire avec des conséquences qui incluent des violations des droits de l'homme. Et puis, surtout, on assiste à une tendance à l'autocratie. Cette retraite des sages de la CEDEAO qui se tient pour échanger des idées et partager des expériences de ses membres et surtout de proposer des solutions aux défis de paix et de sécurité que rencontre donc notre sous-région, c'est clairement une nécessité impérieuse au regard des impacts négatifs qui pourraient intervenir à travers très court terme. J'ai confiance en notre capacité de réponse pendant ces réflexions de 2 jours pour faire des propositions concrètes et des démarches qui auront un impact sûr et rapide sur la paix et la stabilité dans notre région.
Voilà, c'était Goodluck Jonathan, le président du Conseil des sages de la CEDEAO et ancien président de la République fédérale du Nigeria dans des propos recueillis et traduits par Mata Touré. Sans transition à présent, la revue des titres des journaux ivoiriens avec Aoussi Potin. Bonjour Potin.
Bonjour à vous César, bonjour à tous. Nous ouvrons cette revue de presse avec d'ailleurs le titre qui a fait donc l'ouverture de votre journal ce matin César. Ça va donc la visite officielle en Afrique subsaharienne de la ministre japonaise des Affaires étrangères, Kamikawa Yoko, qui a été reçue hier en audience par le chef de l'État ivoirien, ici même en Abidjan, Alassane Ouattara. Une rencontre dont quelques-unes de tabloïdes parues ce jour nous permet d'avoir un aperçu. Promotion économique, Forum Afrique-Japon, Abidjan accueille la 3e édition en décembre, titre Fraternité Matin, qui indique ainsi que les projecteurs seront braqués en décembre prochain sur la Côte d'Ivoire. Un événement majeur à venir qui traduit l'excellence de la qualité des relations qui existent entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Un fait souligné par le quotidien Le Matin qui écrit « Le président Ouattara salue la qualité de la coopération bilatérale avec le Japon ». De son côté, représentant le chef de l'État et par ricochet toute la Côte d'Ivoire, le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé participe depuis le 28 avril 2024 au sommet des chefs d'État et de gouvernement pour la reconstitution de l'Association pour le développement international, en abrégé IDA 21, à Nairobi, au Kenya. Alors sur le sujet, voici le titre du quotidien Le Sort ivoirien. Kenya soutient au développement. Mambé porte la voix du président Ouattara. Et le mandat d'indiquer que reçu par le chef de l'État kenyan, eh bien Mambé sollicite l'appui de la Banque mondiale et souligne le fait que le Premier ministre a échangé avec le président William Ruto, renforçant ainsi l'axe Nairobi à Abidjan. Sur le même sujet, Soir Info de son côté parle donc d'échanges fructueux, du moins à Nairobi, entre Mambé et le président kenyan. Et puis le patriote de souligner qu'ainsi la coopération Côte d'Ivoire-Kenya donc se renforce. Beugé Mambé et William Ruto pour un renforcement de l'axe Abidjan-Nairobi peut donc titrer le dit quotidien. Et puis terminons cette revue de presse César en nous intéressant demain à 1er mai, donc à la journée internationale du travail. Pratiquement un seul quotidien parle à sa une, c'était important pour nous de le souligner, c'est donc le rassemblement qui titre conditions de vie et de travail, quels acquis pour les travailleurs sous Ouattara, point d'interrogation.
Voilà, c'est un gros point d'interrogation, n'est-ce pas? Aussi Poutine, vous serez de retour à partir de 8h pour le même exercice. À présent, l'invité de la rédaction, Francis Kassiré-Soit Théodore, Nyanya Zadi, président de la Confédération syndicale, plateforme nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, pour demain, mercredi 1er mai, où le monde entier célèbre la fête du travail. Eh bien, il annonce d'importantes préoccupations à poser au gouvernement, aux gouvernants, tout en s'étonnant que sa centrale syndicale soit écartée pour la cérémonie officielle organisée par le Premier ministre. Entretien donc.
Théodore Nyanya Zadi, bonjour.
Bonjour.
Le 1er mai, c'est la fête des travailleurs dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, ici, cela va se fêter. D'abord, qu'est-ce que vous en dites?
C'est une tradition qui est l'émanation de la lutte de nos aînés. Et donc, nous respectons cette tradition chaque année. Et c'est l'occasion de faire le bilan de nos acquis et d'ouvrir des perspectives de lutte. Et la plateforme nationale ne va pas trahir cette tradition.
Et quelles sont vos attentes particulières par rapport à ce 1er mai 2024?
Pour ce 1er mai 2024, la Confédération Plateforme Nationale attend dans un premier temps concernant le secteur public, que les dispositions des accords soient respectées dans leur ensemble, notamment au niveau des discussions sectorielles, au niveau par exemple du ministère de l'Éducation nationale. Pour le moment, on n'a pas encore enclenché véritablement les débats. Donc il y a également des inquiétudes. Au niveau des revendications, les fonctionnaires demandent que les primes trimestrielles soit attribué à l'ensemble des fonctionnaires qui n'en bénéficient pas. Donc, de la même façon que nous avons élargi l'indemnité contribuée au logement à tous les fonctionnaires, aujourd'hui, tous les autres fonctionnaires estiment qu'ils ont droit également à ce que les primes trimestrielles soient attribuées. À cela, il faut ajouter la demande également de revalorisation de la prime exceptionnelle de fin d'année, qui est notre 13e mois, qui pour le moment constitue un tiers des salaires. Les fonctionnaires souhaitent que cette prime-là soit revalorisée par l'État de Côte d'Ivoire, sans oublier les retraités qui souhaitent être éligibles à cette prime exceptionnelle de fin d'année, aussi pour tous les services rendu à la nation. Au niveau du secteur privé, nous souhaitons voir une plus grande implication de l'État au niveau de l'école privée, parce que à partir du mois de juin, les enseignants de ce secteur sont laissés pour compte et souffrent. Et souvent, cela dépeint négativement sur les résultats des examens, quand on sait que dans notre pays, plus de 60% du système éducatif est aux mains du secteur privé. Donc, il faut que l'État accompagne ce secteur plus vigoureusement, tant dans le recrutement des enseignants que dans leur rémunération. Ensuite, le SMIG, qui a été revalorisé à 115 000 francs, doit être effectivement respecté dans tous les secteurs d'activité du privé. Et nous souhaitons pour l'avenir que ce SMIG-là également soit augmenté pour atteindre les 120 000 francs CFA, en tout cas dans les années à venir. Aussi, le SMAG, qui est un autre aspect du SMIG, mais qui concerne uniquement le secteur agricole et qui est très bas pour le moment, qui n'a pas été revalorisé. Nous souhaitons qu'il le soit aussi, qu'il soit mis sur la même ligne que le SMIG et que le SMAG disparaisse pour faire place au SMIG pour tous les travailleurs, qu'ils soient du secteur agricole que du secteur ordinaire. Nous souhaitons que la liberté syndicale, la liberté d'opinion, la liberté d'action des syndicats ne soit pas ankylosée, tuée par la trêve sociale. Enfin, la plateforme nationale, qui est une confédération syndicale, demande qu'elle soit reconnue pleinement et entièrement sur la liste des 6 centrales syndicales reconnues en Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent, elle n'est pas invitée officiellement aux activités du 1er mai à la primature. C'est une grosse injustice quand on sait le rôle que nous jouons dans la préservation de la paix sociale. Voilà un peu nos préoccupations pour ce 1er mai.
Est-ce que le gouvernement vous a donné un thème pour ce 1er mai?
En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de thème. Chaque syndicat vient avec ses préoccupations et les présente globalement et puis voilà, c'est tout.
Et mondialement, est-ce qu'il y a un thème?
au plan mondial non plus.
Alors tout à l'heure, vous avez dit que vous ne souhaitez pas que la trêve tue la liberté syndicale. Ça veut dire quoi?
Non, ça veut dire que au plan administratif, hein, certaines personnalités, dès que les syndicats évoquent leurs préoccupations, brandissent la trêve sociale. Or, la trêve sociale doit être une opportunité d'échange, de dialogue. Elle ne doit pas être un chiffon rouge qu'on brandit pour empêcher le mouvement syndical d'exister.
Mais ça veut dire quoi, la trêve sociale?
La trêve sociale, c'est un accord qu'on a conclu avec l'État où les syndicats se sont engagés sur une période donnée à ne pas utiliser la grève comme moyen de règlement de leurs préoccupations. Donc, depuis 2017, nous avons signé une première trêve qui a été renouvelée en 2022. Elle finit en 2027. Donc, dans cette période-là, c'est la négociation qui est privilégiée. Ce n'est pas la grève, ce n'est pas l'action de crise qui est déclenchée dès que nous avons des problèmes.
Et là, vous dites que lorsque vous parlez un peu, on vous brandit la trêve. Ça veut dire quoi?
Ce que je veux dire, c'est que la trêve est une opportunité de règlement pacifique des conflits. Pour nous, la trêve, oui, on a décidé de ne pas aller en grève pour un oui ou pour un non, mais on ne doit pas non plus nous empêcher de nous exprimer à travers, n'est-ce pas, les revendications si les cas de discussion qui sont prévus ne sont pas activés.
Tout à l'heure, vous avez dit que votre plateforme n'est pas officiellement invitée à ce 1er mai. Quel est le problème?
Bon, je ne sais pas ce qu'on nous reproche, mais un arrêté a été pris en 2019 par le gouvernement qui a réactualisé la liste des centrales syndicales en Côte d'Ivoire. Et ce travail a abouti à une liste de 6 centrales syndicales reconnues en Côte d'Ivoire et la centrale plateforme nationale fait partie de ces 6 centrales. Le gouvernement ne nous invite pas au 1er mai comme elle le fait pour les 5 autres. Et pourtant, tout le monde sait l'action de la plateforme dans ces 10 dernières années dans le combat à temps pour améliorer les conditions salariales des travailleurs, mais également pour préserver la paix sociale par la trêve sociale que nous signons.
Mais dans ce cas, comment est-ce que vous allez faire pour être présent au 1er mai?
Non, le 1er mai peut s'exprimer partout. Le travailleur, ce n'est pas à la primature forcément qu'on doit exprimer nos préoccupations. Vous êtes là les médias. Donc, nous, la plateforme, chaque année, nous faisons notre défilé aux deux plateaux de l'ENA. Et au bout du défilé, nous faisons notre meeting. Et au cours de notre meeting, nous déclarons, nous énonçons nos préoccupations. Nous le ferons encore cette année. Et le gouvernement nous entendra de là où nous sommes. Et la plateforme a beaucoup apporté aux travailleurs de Côte d'Ivoire à changer le visage du syndicalisme ivoirien.
D'où votre invitation au 1er mai que vous réclamez?
Oui, nous la réclamons fortement parce que c'est un droit. Et surtout que techniquement, nous avons été reconnus comme centrale respectant la loi du Côte d'Ivoire. Pourquoi on nous laisse de côté et on prend les 5 autres?
Je vous remercie.
Merci à vous.
Voilà, Francis Cassier recevait Théodore Nyanyazadi, président de la Confédération syndicale plateforme nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, dans le cadre de l'invité de la rédaction. Voilà qui referme les pages de ce journal, le rappel des titres. Intensification des relations ivoiro-japonaises. La ministre japonaise des Affaires étrangères, essuyée hier lundi par le président ivoirien Alassane Ouattara, s'est engagée au nom de son pays à contribuer à la paix et soutenir les efforts de la Côte d'Ivoire dans tous les domaines, notamment celui de la sécurité. Le premier ministre ivoirien au sommet des chefs d'État et de gouvernement pour la reconstitution de l'Association pour le développement international, une institution de la Banque mondiale. Lors de ce rendez-vous, Robert Beugré Mambé a sollicité pour la Côte d'Ivoire un renforcement du soutien de l'institution. Enfin, dans l'actualité internationale, la deuxième retraite du Conseil des sages de la CEDEAO se tient en ce moment ici même à Abidjan. Les défis de la gouvernance, la paix et la sécurité dans la sous-région ouest africaine sont au menu des échanges. Fin de cette première édition de l'actualité sur Radio de la Paix. Prochain rendez-vous, 8h.
Fraternité, unité, pardon, persévérance, avançons ensemble sur la route de la paix.